I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Il nous faut être seuls et abandonnés de tous si nous voulons aborder un travail de l'esprit. Thomas Bernard. Est-ce qu'il ne faut pas être rejeté pour devenir soi-même? Sophocle. Je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont dit non. C'est grâce à eux que je suis moi-même. Albert Einstein. Ici Emmanuelle Robitaille avec vous pour la prochaine heure pour aborder ces blessures qui blessent, comme je les appelle, qui blessent loin, qui blessent longtemps. Oui, on parle aujourd'hui de rejet et d'abandon.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Est-ce qu'il existe une raison qui puisse nous exempter d'être l'objet du rejet ou de l'abandon au cours de notre vie? Des fois, je me pose la question, est-ce que au final, le rejet et l'abandon seraient pas inévitables, finalement? C'est quoi les conséquences du rejet et de l'abandon sur notre relation avec nous-mêmes, sur notre relation avec les autres aussi? Est-ce qu'il y a des rejets qui font plus mal que d'autres? Est-ce qu'on guérit de ça aussi? On essaie de répondre à toutes ces questions-là et on aborde le rejet et l'abandon aujourd'hui avec nos invités Daniel Ouimet, Sandra Hull et Christine Chérine Dakak. Bienvenue à On est tous des humains.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Daniel Ouimet.
Oui, bonjour.
Vous avez été la première lectrice de nouvelles en Amérique du Nord sur la bande FM. Mm-hmm. Vous avez également été dans le paysage culturel québécois en tant que chanteuse, comédienne, animatrice et actrice. Votre carrière se constitue de 55 ans de télé, de 20 ans de radio, de 17 films, dont Valérie, qui a été le rôle clé de votre carrière dans les années 60, qui va avoir 50 ans également. Bienvenue. Sandra Hull, vous êtes une femme accomplie tant sur le plan personnel que professionnel. Vous êtes auteure et conférencière après l'écriture du livre « Je suis tellement plus grande que nature » qui veut démystifier votre vécu à travers le syndrome de Morquio, une forme rare de nanisme dont vous avez reçu le diagnostic à l'âge de 5 ans. Vous vous êtes sentie différente très jeune et grâce à la communication écrite et parlée, on va se le dire, là, aujourd'hui, vous aidez des milliers de personnes à comprendre la différence, à l'accepter et à vivre la leur. Bienvenue.
Merci.
Madame Chérine Dakak, vous êtes psychologue clinicienne depuis plus d'une décennie avec une expertise en relations interpersonnelles. Oui, plus précisément, vous êtes éclectique dans votre approche, mais vous êtes spécialiste de la thérapie des schémas.
Exactement, qui me passionne énormément.
Par Jung, qui aussi est très connu et que le rejet et l'abandon est un des schémas qui nous est proposé dans cette vision thérapeutique-là. On a pu bénéficier de votre expertise concernant, entre autres, la peur de l'abandon et du rejet dans un article publié par la chaîne de Canal Vie, article qui complémente vos nombreuses collaborations médiatiques avec la chaîne de Radio-Canada et divers magazines. Bienvenue à l'émission.
Merci, ça fait plaisir d'être avec vous.
À vous trois. Mesdames, je l'ai dit un petit peu en introduction, on dirait que j'ai l'impression un petit peu comme l'aspect d'être de se diviser, qu'on les blonds, les bruns, lunettes, pas de lunettes, broches, pas de broches, peu importe, tout est un critère pour être divisé dans la vie. Est-ce que ça serait pas un peu la même chose quand je regarde qui est autour de la table? On a n'importe quoi est bon pour être rejeté, être abandonné. C'est un point qui vous rallie, qui vous rassemble ici aujourd'hui. C'est pas un point qui est facile. Madame Ouimet, c'est quoi votre expérience avec le rejet?
Oui, bien, chose assez surprenante, bien sûr. Mon expérience avec le rejet vient beaucoup avec cette volonté qu'ont les gens de te placer dans une petite case et de se dire, tiens, je vais dire toutes les pour, mais les contre surtout que j'ai contre.
Il y a nous et il y a eux.
Exactement. T'sais? Alors, la blonde, elle est idiote. Elle n'est pas très intelligente. Elle est très... accessible par les hommes, etc., etc. Et puis, à un moment donné, tu t'aperçois que, bon, si tu rentres dans le travail, cette blondeur-là peut t'aider et peut te rejeter ou te faire rejeter aussi. Elle peut te faire accepter par le boss.
Elle est belle, elle doit pas être fine.
Oui, c'est ça.
Non, mais...
Et rejetée par le reste des filles qui sont peut-être un peu moins visibles, etc. Alors, c'est effectivement, l'agression est permanente. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu peux être... mais tout est une question de savoir comment pourrais-je en faire, au contraire, un avantage.
On va voir les conséquences et comment
exactement.
On peut l'utiliser.
Parce que le rejet, vous avez dit une phrase tout à l'heure, moi je suis très Einstein, merci à tous ceux qui m'ont dit non, parce qu'effectivement, ils m'ont fait ce que je suis. Mais quand on fait cette dissertation-là, à savoir que oui, le rejet sert à quelque chose, et on va en parler comme vous dites, je trouve que c'est un sujet, mais bien sûr, j'ai été... très régulièrement rejetée.
Mais c'est ce qui est intéressant parce que dans votre cas, on parle de relations amoureuses, du rejet des fois, votre personnage Valérie, les gens s'attendaient à dater cette fille-là, alors que c'était pas elle qui se trouvait là. Donc, il y a eu des rejets par rapport à ça, par rapport au travail également, parce que...
Même encore aujourd'hui, hein?
Exactement.
Là, c'est l'âge. Là, en ce moment,
c'est rendu l'âge. OK. Donc, on vient de changer de critère de rejet.
Oui, ça y est, je suis trop vieille là, pour la télévision.
Exactement.
Mais bon, il faut passer à travers ça. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce que les autres ont à dire.
Ben exactement. Sûr, parce que... Sandra, c'est différent dans la mesure où, pour votre part, vous êtes née avec une différence physique. C'est sûr qu'à 3 ans, on s'en rendait moins compte, mais on s'en est rendu compte assez rapidement. Assez pour qu'à l'âge primaire, secondaire, c'était déjà présent dans votre vie. Je suis différente.
Oui. Ben moi, le rejet puis l'abandon...
c'est pas mal une thématique.
Ben c'est que ça a touché plusieurs sphères de ma vie. Ouais. Que ça soit été par rapport à moi-même. Moi-même, je me suis rejetée face à ce que j'ai vécu dans la vie. Des gens qui m'ont rejetée, des emplois qui m'ont rejetée, des garçons à l'âge adolescente qui m'ont rejetée. Et moi, face à tout ça, j'ai développé, je ne sais pas comment on peut appeler ça, tu sais, je me rejetais moi-même. Je ne me permettais pas de vivre ce que j'aurais pu vivre parce que tout ce que j'entendais et que je voyais dans le regard des gens sur moi,
était assimilé en vous.
C'était ancré en moi, donc je ne me permettais pas d'accéder à tout ce que j'aurais pu faire finalement. Puis aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, à 20 ans, j'ai compris bien des choses en suivant une formation de développement personnel. Et suite à ça, là, j'ai commencé à faire un cheminement intérieur pour changer mon mindset, pour changer mes fausses croyances à l'intérieur de moi.
C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de limite au rejet et à l'abandon quand on finit par se rejeter soi-même. J'imagine que c'est quand même la pire personne qui ne peut pas nous rejeter. Madame Lacac, est-ce que le rejet et l'abandon est tellement présent dans nos sociétés, dans la vie de tout le monde, qu'on finit par s'y intéresser et en faire une cible de travail comme psychologue? Non, mais tu sais, on va se le dire. Là.
Écoutez, n'importe qui peut vivre un sentiment de rejet ou d'abandon, mais j'aimerais peut-être faire une petite différence entre rejet et abandon.
C'était une de mes questions. Est-ce que c'est la même affaire?
Pas vraiment, parce que quand on parle de rejet, on parle d'une action qu'on subit de la part d'autres personnes. Il y a une action et nous la subissons. Quelqu'un nous rejette pour de vrai. Alors que l'abandon pourrait être un sentiment complexe qu'on ressent qui fait référence à des abandons passés, réels ou imaginaires. Imaginaires, je veux dire, dans le sens où même si on a eu, par exemple, les meilleurs parents à notre enfance, mais que ce parent-là était malade ou bien il travaillait trop, alors nous, comme enfants, on pourrait le vivre comme étant un abandon, mais ce n'est pas un vrai abandon, mais c'est un vécu. Donc ça pourrait affecter notre perception à l'avenir, à l'âge adulte, comment on perçoit les relations, comment on se perçoit, comment on interprète certaines situations qui peuvent être anodines, mais on peut les interpréter comme étant de l'abandon.
Je vois la différence à quelque part. On se fait rejeter, donc on ressent l'abandon. Se faire abandonner littéralement, c'est peut-être un peu moins fréquent. N'en demeure pas moins qu'il y a des interrelations probablement entre les deux. Mais l'autre chose, c'est aussi l'occurrence, le nombre de fois que ça arrive.
Ça arrive. Ça peut arriver à n'importe qui.
Tu sais, je regarde, à un moment donné, se faire rejeter une fois, c'est correct. Vivre dans un rejet constant, un rejet de soi-même, C'est une autre catégorie de sensation, ça? Se faire dire non une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et Madame Ouimet, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Vous dites, si ça arrive une fois, c'est OK. Mais quand ça arrive deux fois, puis trois fois, là, il faut commencer à regarder la responsabilité Exactement. Que nous, on a.
Intérieure. C'est-à-dire que il y a toujours, bien sûr, l'élément extérieur où les gens, pour X raisons, ont décidé de prendre une direction vis-à-vis vous et de vous rejeter de cette façon ou de vous dire non de cette façon. Mais à un moment donné, on développe probablement, lorsqu'on se fait dire non sur un projet bien, bien, bien important ou une deuxième fois, une troisième fois, on développe probablement une espèce de façon de se présenter ou d'agir vis-à-vis quelqu'un qui peut ressembler à une attaque ou à un reproche. Bon, j'ai remarqué parfois, quand j'étais très, très, très fatiguée, que je travaille, etc., qu'on me dit deux fois, trois fois, quatre fois non, je deviens sur la défensive. Je ne suggère plus, je dis... « Ah, oh, vous ne me ferez pas faire ça, hein. Bien sûr, évidemment, vous ne me ferez pas... » Et tu deviens acariâtre et tu deviens progressivement dans l'attaque. Et les gens le perçoivent. Même si c'est très léger, les gens le perçoivent. Et il y a un côté défaitiste à cette chose qui fait qu'à un moment arrivé, il faut que tu te dises « Une minute, il y a une belle attitude à avoir ou il y a une attitude... » C'est pas tout le monde qui va te dire non à un moment donné, ça va marcher. Il y a peut-être ta façon de faire qui devrait être revisée, ta façon de présenter les choses qui devrait être révisée. Et le travail commence à ce moment-là vers soi. Et c'est très important, je pense.
Donc, on parle qu'il y a des attitudes qui changent et qu'il y a des fois, on crée une prophétie auto-réalisée aussi. Mm-hmm. On a tellement peur de se faire rejeter qu'on finit par avoir une attitude qui est rejetable, qui n'est pas agréable et on crée ce dont on a peur.
J'en connais.
Oui, on va parler des conséquences du rejet dans quelques instants. On va voir où ça nous mène.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout. S'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or. Et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. « ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Faut en rire un peu, je m'excuse, je prends
c'était
le devant.
C'était une pas pire chanson,
en
hein?
En disant que quand on a une peine amoureuse, on écoute ça, puis c'est ça qui nous parle, les larmes.
La patente, on demande, mais on remercie Jacques Brel de nous faire shaker la corde de l'émotion, sincèrement. On parle de conséquences, écoutez, on pourrait en parler pendant 24 heures des conséquences du rejet et de l'abandon. Je vais quand même commencer à dire, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, vous vous entendiez toutes pour dire qu'à quelque part, il y avait quand même des aspects positifs à ça. On a les trois citations que j'ai nommées, c'est quelque chose qui était relativement à nous amener plus loin, finalement, à évoluer. Sandra, vous avez même écrit au début du livre une dédicace qui va comme suit. À tous ces gens qui portent sur moi un regard de stupéfaction, de curiosité, voire de moquerie, et à tous ceux qui m'ont jugée. Sans le savoir, vous avez fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, une fille plus grande que nature. Mmh. On sait que ça nous définit à quelque part, et pas toujours dans le noir ou dans le négatif, il y a des belles fleurs qui peuvent pousser. Par contre, Mme Ouimet et Mme Houle, les deux, vous êtes d'accord? Première chose qui sort, c'est quand on se fait rejeter, on doute de soi.
Absolument.
Ben oui, c'est sûr. On doute
de soi. Ça vient nous shaker, là.
Mais je pense que plus ça se présente dans notre vie, plus on développe une force intérieure, une force à faire face à ce rejet-là qui fait qu'on le voit peut-être d'une manière différente. Je sais pas si...
Moi, je dis qu'on n'est rien. On n'est rien, absolument rien, si on n'a pas eu une coupe de rejet.
Oui, pour vous, c'est comme nécessaire.
Ah ouais, c'est absolument nécessaire.
On ne sait pas vivre. C'est ce que vous avez
c'est ça.
Dit.
On ne sait pas vivre si on n'a pas eu quelques noms dans la vie. Je faisais un parallèle avec les enfants. Nous, on a vécu, on est rendu à 40, 50, 70 ans, dans mon cas. Mais on a vécu ces rejets-là, puis je ne sais pas, il y a un recul qui se fait. Mais les jeunes aujourd'hui, là, tu ne peux plus leur dire non. C'est épouvantable. Il y en a qui, les suicides sont au top, sur un paquet de raisons non valables, en tous les cas, pour partir. Et ils le font. Et souvent, je regarde les statistiques. Il a été rejeté, il a été abandonné, il a été ci, son entourage le rejette, etc.
Parce que mener une vie sans refus, c'est même pas possible.
Mais ils seraient devenus plus forts s'ils avaient été capables de faire face à ça. Mm-hmm. Et ça s'apprend. Ça s'apprend.
Mais le rejet est beaucoup plus fort probablement chez une personne qui va se faire rejeter pour la première fois de sa vie à 20 ans qu'un enfant comme moi qui a vécu le rejet vers l'âge de 5 ans, 6 ans, tout ça. C'est ça. Je l'ai développé, moi, cette force-là. Mm-hmm. De comment qu'on choisit d'accueillir ça, le rejet.
T'as de l'expérience en arrière de la cravate dans le domaine,
on
mettons.
On peut dire ça.
On va se le dire.
On
Madame Lacaque, les conséquences sur la personne et sa relation avec les autres, ce que vous dites, c'est la façon dont les gens se perçoivent va teinter la façon dont ils se comportent avec les autres.
Tout à fait, parce que pour commencer, la vie, c'est une série de rejets. Et d'abandon, et on ne nous a jamais assez préparés à ça. D'accord? Donc, chacun peut le vivre à sa manière. Donc, parfois, ça peut nous amener à grandir et à faire des deuils, parce que c'est une série de deuils. Il y a des deuils, le passage du primaire au secondaire, un ami qui quitte la ville, des ruptures amoureuses, tout ça peut être vécu comme des abandons.
La fin d'un projet, n'importe quoi. T'sais.
Tout à fait. Donc, et les réactions peuvent être différentes d'une personne à une autre. Les personnes, par exemple, qui ont déjà à la base ce qu'on appelle un schéma d'abandon, donc qui ont tendance à interpréter certaines situations comme étant des abandons, ces personnes-là peuvent réagir de différentes façons. Par exemple, elles peuvent faire ce qu'on appelle une soumission à leur schéma d'abandon. ça veut dire finir par inconsciemment chercher des relations qui sont instables, ou bien quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, et donc, ou bien des relations impossibles avec quelqu'un qui était en couple, et on finit par se sentir abandonné alors qu'on l'aurait, sans le vouloir certainement, on l'aurait cherché entre guillemets.
Donc la peur du rejet peut nous amener à créer des situations de rejet.
C'est exactement ça.
C'est un peu paradoxal.
Oui. Et sinon, d'autres personnes peuvent faire ce qu'on appelle la surcompensation. Par exemple, j'envoie un message texte à une amie, elle ne me répond pas dans les 4 heures qui suivent, ou bien dans la demi-heure qui suit, et donc je pourrais la bombarder de messages textes l'insultant et savoir c'est quoi le problème, et donc vivre ça vraiment comme un abandon. Alors ça, la réaction forte, la personne l'a fait sans nécessairement le décider de le faire consciemment, mais ça peut être grave pour elle parce que ça pourrait amener les personnes à s'éloigner d'elle. Donc, elle qui a tellement peur de l'abandon, elle pourrait même le provoquer.
Exactement. Dans la prophétie autoréalisée tout à l'heure que vous disiez, Mme Mouin.
C'est tout à fait ça. Ouais. Et d'autres personnes, ouais. ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont faire de l'évitement. Donc, elles vont éviter, par exemple, d'être trop proches de certaines personnes par peur d'être abandonnée, par peur de vivre de l'abandon.
Ou en se présentant pas à certaines auditions, par peur de se faire dire non parce qu'on cadre pas, Mme Hull, mettons.
Oui, c'est ça. Mais je l'avais déjà vécu deux fois. Fait que là, déjà, c'était ancré en moi. Je me disais, ah, j'ai pas, ça fit pas, j'ai pas ma place.
Quoi. Ça va se répéter nécessairement.
Ou bien même,
Ben moi, je pense juste qu'à ce qu'on règle
cette chose-là à l'intérieur de nous.
Cette blessure-là à l'intérieur de nous.
Ou qu'on est prêt à accepter de se faire dire non encore.
Ça fait mal, ouais. Ça fait mal à se rendre jusque-là, par contre.
Oui.
D'accepter, c'est un petit peu...
c'est un abandon.
Abide, là. Tu sais, en anglais, on dit baisser les bras, mais ouais, c'est ça, surrender un peu
ouais,
à ça.
Oui, c'est ça, exactement. C'est un abandon de certaines croyances de soi, de certaines certitudes qu'on a, et il faut les recanaliser autrement, je pense. Hein, c'est ça, je me trompe pas, là. Il faut recanaliser nos énergies, mais autrement, pour que ça revienne vers nous, et non que ce soit un repoussoir. C'est ça.
Oui, il faut prendre le risque aussi. Il y a des personnes, il y a des personnes qui vont même aller jusqu'à avoir peur d'avoir un chien ou un chat pour ne pas vivre un sentiment d'abandon 10 ans, 12 ans plus tard.
Parce qu'un jour, il va décéder.
Exactement. Et donc, voilà, il faut prendre le risque de vivre de belles choses.
Je vais vous donner un exemple probant. J'ai une amie qui... Je la nommerai pas, bien sûr.
On la salue.
qui m'écoutera pas, j'espère.
On la salue.
qui choisit que des hommes qui sont engagés, soient mariés ou
pour être sûre que ça marche pas.
Pour être certaine que c'est pas elle la cause du rejet, c'est le fait que lui, il soit occupé.
Ouais.
Alors, elle ne choisit que ça. C'est automatique. C'est automatique.
Et c'est inconscient, souvent. Est-ce que, dans les conséquences, le vide intérieur est comme inclus dans le forfait? Dans les conséquences du rejet, est-ce que le vide est inclus dans le forfait?
Peut-être d'une façon temporaire. C'est-à-dire, j'imagine, si tu n'as pas assez de force pour avoir d'autres choses qui prennent le dessus, c'est là que tu tombes en dépression et que tu fais pas grand-chose, j'imagine. Mais le vide, il est occasionnel. C'est-à-dire que, bien sûr, surtout dans une peine amoureuse, parce que là, c'est tout ce que tu as donné, c'est tous les espoirs que tu as fondés qui, tout d'un coup, sont remis en action et tu as l'impression que c'est ta faute à toi. J'ai toujours dit, moi... Il y a la règle de trois dans une relation. Si les trois fois, vous vous êtes fait dire non par un homme différent, mais toujours dans le même schéma, la première fois, c'est de sa faute. C'est un écœurant, bon, c'est tout. La deuxième fois, ben là, tu y penses. Tu dis, ben peut-être que il me semble qu'il faudrait que
j'ai une petite part de responsabilité.
Peut-être que j'ai une petite part de responsabilité. Oui. Oh, on va y aller moitié-moitié. Mais la troisième fois, c'est de ta faute en tabarouette. Parce que si tu te laisses faire ça trois fois,
il y a quelque chose que t'as pas compris,
c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas compris puis qu'il faut que tu changes.
Et que tu te fais à toi-même.
Exactement. Moi, je dis que c'est la règle de trois. La troisième fois, oublie ça, là. Cherche même pas la quatrième fois. Prends du recul. Des fois, les reculs sont longs. Moi, ça m'a pris 10 ans. Mais les reculs sont longs, mais c'est nécessaire. Faut savoir où te placer, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Surtout ce que tu ne veux pas. Mm-hmm. Ce que tu veux, bon, ça peut changer avec la personne qui est devant. Il y a des concessions à faire, donc tu ne sais pas ce que tu veux.
Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que les conséquences varient en fonction des gens. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, elles peuvent être à court terme ou perdurer très, très longtemps. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Ouais. On va continuer de parler de rejet et d'abandon, mais c'est à se questionner. qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui pour, suite à ces abandons-là, ou pour éviter tout abandon, ou pour en créer, justement, me donner des raisons d'être triste. Parce que des fois aussi, on finit par se définir à travers ces blessures-là. Quelques instants pour se positionner personnellement à travers ça, et on revient dans quelques minutes. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her, oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me, oh? And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out alive. Stilettos and broken bottles. I'm spinning around in circles. And I'm in the corner watching you kiss it. Oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh. And I'm giving it my. Restez là, on continue de parler de rejet et d'abandon aujourd'hui avec nos invités, Mme Danielle Ouimet, Mme Shirin Dakak et Mme Sandra Hull sur le Canal M. Vous écoutez toujours, on est tous des humains ici sur le Canal M. Emmanuel Robitaille avec vous encore pour la prochaine demi-heure. Je ne suis pas seule, non, on parle aujourd'hui du rejet et de l'abandon avec trois invités de choix pour le faire, Mme Danielle Ouimet, Mme Shirin Dakak et Mme Sandra Hull.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
Cet abandon-là, ce rejet-là, c'est bon, deux choses qui peuvent se tenir la main. Des fois oui, des fois non. On en a parlé à Mme Dacac quand même. On va parler tout d'abord des facteurs qui peuvent aggraver, on va se le dire comme ça, là, qui peuvent aggraver les conséquences dont on vient de parler. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des tranches d'âge où c'est plus difficile de recevoir les abandons, parce qu'on va en parler, Mme Ouimet, vous les avez vécus à différents moments de votre vie, mais au niveau de la jeunesse, c'était pas peut-être moins le thème comparativement, mettons, Mme Hull ou vous, ça a commencé à 5 ans, puis vous l'avez dit, puis vous l'avez écrit, puis vous l'avez nommé souvent en entrevue. Je me sentais pas outillée, moi, pour faire face à ça à 5 ans, tu sais, je savais pas trop quoi faire, là.
Mais quand on est jeune, on a beaucoup de rêves. On idéalise à peu près tout. On idéalise l'amour, on idéalise je vais rentrer dans du travail, puis je vais être tellement bonne qu'ils vont me garder, puis ils vont me donner ils vont aller monter plus haut à chaque fois, puis je vais aller plus loin, puis je vais aller plus loin. Et quand on te dit non, 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 dans tes plus grands rêves, ben, t'es jeune, tu le prends très mal. En vieillissant, tu t'aperçois que c'est une possibilité. Alors, tout ce que tu offres par la suite, tu fais attention à la possibilité de te faire dire non. Et tout est une question à ce moment-là de la façon dont tu as réagi les premières fois et jusqu'à quel point tu peux subir encore une défaite. Mm-hmm. Parce que ça, c'est considéré comme une défaite. Alors que, finalement, si tu regardes bien, et c'est que le temps qui te fait voir ça.
Ben, c'est sûr.
Il y a temps qui te fait voir ça, que finalement, t'es peut-être même pas le sujet. C'est complètement à côté de la traque. Il faut que tu vois les choses différemment, c'est ça.
Mais Mme Lacac, c'est quoi les facteurs qui font en sorte qu'une expérience de rejet, on va se le dire, qu'un sentiment d'abandon s'installe? C'est la tranche d'âge, c'est le nombre de rejets et d'abandons, c'est la source du rejet. Qu'est-ce qui joue sur les conséquences, la gravité, puis le fait qu'elle perdure ou non?
Bien, il n'y a pas de réponse précise. Cependant, les expériences vécues à l'enfance peuvent être très douloureuses. Et comme un enfant n'est pas outillé cognitivement ou émotionnellement pour dire à son parent, papa ou maman, j'ai besoin de ton attention, donne-moi de l'amour, ne pars pas travailler, reste avec moi, sors de ta chambre, arrête de boire. Un enfant n'est pas outillé pour dire ça. Donc, l'enfant va aller jouer, il va commencer à cogner les pieds dans le mur. Il va faire plein de choses pour continuer à vivre. Donc, il va avancer dans la vie. Mais à l'âge adulte, cet enfant-là pourrait avoir ce qu'on appelle un schéma d'abandon. Et donc là, les abandons, entre guillemets, passés, parce que c'est pas nécessairement des vrais abandons, peuvent avoir un effet parfois même désastreux chez une personne. Hein? Quand la personne commence à interpréter n'importe quoi comme étant un abandon. Si je dis bonjour à quelqu'un, puis l'autre a des écouteurs, ne me répond pas, et que je vis ça comme un abandon, c'est triste.
Mais c'est à la source de troubles de personnalité, comme le trouble de personnalité limite, par exemple, ou le cluster B, tu sais, où on voit ces abandons réels ou imaginaires-là qui sont partout, constamment, mais c'est une détresse qui est constante. Et ça fait mal, voir ça.
Exactement, ça fait mal, mais c'est important d'avoir de l'empathie pour ces personnes qui vivent ces choses-là, parce que, de par leur réaction parfois, elles peuvent repousser les autres involontairement, et les autres, donc, ne pourront pas avoir de l'empathie. Et donc là, on peut rentrer dans un cercle vicieux, et donc créer l'abandon, et ça peut se répéter. Ce que la personne redoute le plus, elle pourrait finir par le créer.
Mais justement, quand on parle de ne pas être outillé, aussi quand on est jeune, est-ce que c'est moi ou plus on est jeune, moins on est capable, une fois adulte, quand on a des problèmes relationnels ou d'identité ou de la peine qui reste, moins on est capable d'aller saisir la source de ça. Je veux dire, on se rappelle tout ce qui a été dit à 4 ans, tu sais, ou tout ce qu'on a vécu.
Ben, c'est sûr que moi, je me rappelle de beaucoup de choses, sauf que j'ai fait le choix, moi, dans la vie, de travailler sur moi et d'accueillir cette blessure-là qui est du rejet et d'abandon.
Et tu l'as revisité autrement. Volontairement.
Est-ce qu'on peut pardonner?
Oui, il faut apprendre à pardonner, ouais. Mais sans oublier nécessairement. Mm-hmm. Voilà. Je pense que d'apprendre à pardonner, c'est important pour retrouver la paix intérieure aussi. Mm.
Et c'est important de ne pas oublier ou on ne peut pas oublier?
Moi, je pense que pour moi, je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, de ma vie finalement. Donc non, je n'oublierai pas et je choisis parfois, tu sais,
prendre la leçon, c'est ça. Il faut prendre la leçon.
Oui, puis comme on disait tout à l'heure, tu sais, moi, à cette heure, quand j'ai un non à quelque chose ou que je désire quelque chose et que finalement, ça ne se passe pas comme moi je souhaiterais ou que je me fais dire non, c'est de me dire, ben, c'est parce que finalement, j'étais pas due pour ça. Parce que la vie va m'amener ailleurs. Tu sais, mettons, on est en amour avec quelqu'un et la personne, non, elle n'est pas en amour avec nous. Bon, moi, c'est pas mon cas. Ça fait 18 ans que je suis avec la même personne. Alléluia. Merci la vie. Mais je veux dire,
Belle job.
au début, quand moi, je me faisais dire non par ma différence et tout ça, je le prenais personnel. C'est ça. C'est parce que je suis différente. Je suis pas assez ici, pas assez confiance.
C'est la même question. Est-ce que tu avais tendance à le mettre souvent sur cette différence physique? Mais c'est une impuissance totale. Tu peux rien changer.
Oui, mais c'était à cause de ça pareil.
OK. Ça rend impuissant, là. Tu devais ressentir comme c'est pas de ma faute. Je peux rien faire. Je peux pas changer. T'sais?
Ben, non. Je me suis pas tant que ça. Dit ça. Moi, je me disais plutôt, ben, c'est ça. Je suis comme ça. Fait que personne m'aime. Comme ça. Il n'y a aucun gars. J'ai été quelques années à me dire, il n'y a aucun gars qui va m'aimer comme ça. Tu sais, je vais-tu passer ma vie tout ça jusqu'au jour où est-ce qu'à un moment donné, vers 17 ans, je me suis dit, bon, moi, là, c'est pas vrai que je vais passer ma vie toute seule. Ça va peut-être prendre du temps avant que je rencontre la bonne personne, mais lorsque je vais la rencontrer, ça va être la bonne.
T'as ouvert à
ça. Et j'ai ouvert mon cœur à ça et je me suis concentrée là-dessus.
Qui nous rejette? Est-ce que ça, c'est important? Parce que quand on fait un travail public comme vous, Mme Ouimet, je veux dire, des fois, c'est des inconnus qui nous rejettent. Pourquoi ça fait mal quand même?
Ben, non.
Ben, c'est le regard. Non, mais le regard.
Plus moi. C'est-à-dire que oui, c'est quand quelqu'un que j'aime beaucoup. En fait, j'allais dire, ce qui fait mal, c'est la personne à qui tu donnes une valeur.
C'est une trahison?
C'est une valeur, oui, c'est exactement. C'est-à-dire, je vais même jusqu'à dire, tu lui as donné des qualités qu'ils n'ont pas nécessairement. C'est-à-dire, tu amplifies par bonheur parce que la personne est drôle, elle est amusante, elle est présente, etc., etc. Tu lui donnes des valeurs, etc., etc. Et tout d'un coup, ben, il se retourne puis il dit, ben non, moi, c'est pas la direction que je voulais prendre. Et donc, t'as deux rejets. T'as celui de tes valeurs à toi personnellement et de cette personne qui décide que son caractère ne va pas avec le tien et que tu es négligeable, finalement.
Et on se sent floué à ce moment-là.
Oui.
C'est un problème de considération.
Je dis, moi, le plus grand problème amoureux, c'est les vertus
vertu que tu as accordée à l'autre pour que ça te fasse plaisir à toi. Et c'est vrai.
C'est la projection. Ah, c'est l'idée que tu te fais de l'autre exactement. Qui, des fois, diffère de ce qu'il est réellement.
Ça prend beaucoup de temps avant de connaître quelqu'un véritablement et d'accepter si ça s'accorde bien avec toi-même. Et ce temps-là, il faut que tu le prennes parce que... Bon, et combien de fois on tombe amoureuse en l'espace de... Je vais vous dire, ma plus grande leçon, j'ai rencontré mon mari, enfin à l'époque, le 1er juin, puis le 17 août, je t'ai mariée. Ça a duré 4 ans.
Mais quand même, ça a été une bonne...
Ah ben, mais à cause de moi! Ouais. À cause de moi, mais... Ah ouais. Tu sais, il y a eu une leçon à prendre de ça, puis c'est à partir de là, effectivement, l'introspection a été très importante. Surtout à ce niveau-là, quelles sont les vertus que tu accordes à l'autre? Il faut vraiment prendre le temps de se dire que chaque personne est individuelle et qu'il n'a pas nécessairement les mêmes vues que les tiennes. Alors, il faut que le plus grand respect commence par ça, et probablement pas le rejet. Si tu dis, ben, regarde, lui, il est tout croche, puis il faut que tu le prennes tout croche. Combien de fois j'ai vu des gens que j'ai dit, ils étaient tout croche, puis j'ai dit, mon Dieu, je les regardais aller en disant, oh, je devrais pas rester là. Et puis aujourd'hui, ils sont extraordinaires.
On va regarder à travers ce manque de considération-là et à travers ce sentiment un peu de trahison également qu'on peut ressentir quand on vit un rejet. On va regarder comment on peut traverser ça, quelle sorte de facteur de protection on met en branle, mais aussi comment on guérit dans quelques instants.
Yeah.
pourquoi on m'invitait moi. Pardon. Ouais, oui, je m'excuse.
On avait vraiment on a des discussions animées pendant les chansons. C'est dommage ouais. qu'on ne soit pas toujours en onde parce qu'on on parle et ça discute beaucoup et c'est signe qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui est très profond. On finit jamais d'en parler, mais justement, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Quand on a été rejeté, quand on a été abandonné à répétition ou à une suffisante expérience qu'on l'a intégré, qu'on peut dire que ça fait partie de notre bagage personnel, comment on agit? Est-ce qu'on rejette à notre tour parce qu'on veut se protéger ou est-ce qu'on aime mieux et on veut éviter de faire vivre ça aux autres? Comment vous avez vécu ça? Comment vous pensez que vous gérez ça, vous les filles?
Je pense que tout est différent. Hein. Si quelqu'un fait, enfin, quelqu'un qui a eu plusieurs partenaires dans la vie, fait un bilan de ces rejets-là. Là,
mettons-vous.
Mettons. Okay. Disons. Mais quand on finit par faire un bilan, tu te dis, finalement, lui, je regrette vraiment. Puis l'autre, c'est pas grave, c'était le fun. Puis l'autre, c'était un bon ami maintenant. D'ailleurs, ils sont tous mes meilleurs amis. Tous. Je les ai tous gardés, je les vois tous une fois par année. Tant pis pour le prochain qui va arriver, si ça fait pas son affaire, c'est de valeur. Mais, et finalement, il y a des raisons pour lesquelles il y a des fois où ça a été plus profond. Pourquoi le rejet a été plus profond? Pourquoi lui, ça te fait encore de la peine 15 ans, 20 ans plus tard? Et pourtant, je me rappelle en fait d'un cas en particulier où cette personne est venue s'excuser 30 ans plus tard de m'avoir fait ce qu'il avait fait.
Mais ça fait quand même que tu
ça fait du bien.
Vous êtes célibataire, ça fait, c'est vrai que ça doit ça faire du bien, du bien, un amendement comme ça.
Ça fait du bien.
Mais ça fait 20 ans que vous êtes célibataire à ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est vraiment un choix ou c'est une protection?
Ah non, c'est un plaisir.
On peut.
C'est un plaisir.
C'est vrai?
Non, mais j'avais 16 ans et j'ai même à 16 ans, je disais, le bonheur total, c'est d'avoir deux appartements collés puis chacun dans son territoire. Mm-hmm. J'avais 16 ans, je disais ça déjà.
Fait qu'il y a vraiment
ça a toujours
un
été
rêve
ça.
Réalisé. Là.
Et puis, dans une maison, si j'avais pas mon coin, d'ailleurs, ils sont tous venus vivre chez moi. Mm-hmm. Il fallait que ce soit chez moi. Pas parce que je voulais pas me soumettre je me suis fait un coin quand je me suis mariée, où j'avais une très belle maison, etc. Mais même dans cette maison-là, il fallait que lui ait son coin, moi j'ai mon coin, et que je fasse mes choses, et que je me développais complètement à l'extérieur de la personne pour le soir, lui en reparler le soir. C'était mon plus grand plaisir. Mais la fusion, je ne l'ai jamais acceptée comme étant une façon d'aimer, la façon fusionnelle
d'aimer. Ça fait pas partie de vous, de toute façon, rejet ou pas.
Par ailleurs, je ne dis pas que ça ne devrait pas exister. Mes parents étaient fusionnels, puis tant mieux.
C'était
bravo.
Bien correct.
Mais c'était bien correct, ça aussi.
Mais chacun son affaire. Ouais. Pour vous, Sandra, ouais?
Ben moi, j'ai appris à me respecter là-dedans, malgré tout ça, tu sais, malgré la peur du rejet. J'ai jamais été avec une personne, exemple, parce qu'elle m'aimait. Puis je voulais pas, je me disais, elle m'aime, on est ensemble. Tu sais, il y a eu peut-être 2-3 garçons avant mon mari que j'ai actuellement. Mais je me suis, même dans la sphère amitié, les sphères amoureuses, je me suis toujours respectée. Je me suis dit, c'est pas, si je suis pas bien dans cette amitié-là,
je resterai pas juste par peur de pas avoir d'amour.
C'est ça.
Wow.
Même chose pour les garçons là, à l'époque. Là.
Mais ça, Madame Dacac, c'est très mature et à la limite, c'est de la résilience pure et dure parce qu'au contraire, souvent, on peut avoir tellement peur de ne pas se faire accepter qu'on ne vit pas notre propre vie. Ça, vous l'avez nommé.
Exactement. C'est important de surpasser notre peur d'être rejeté et de passer à l'action. Prendre des risques, faire des choses, envoyer un CV, sourire à quelqu'un qui nous plaît, lui donner notre numéro de téléphone. Donc, il faut prendre des risques dans la vie, sinon on peut rester sur place. Hein,
moi, je suis vraiment la pro du dépassement. Là, je veux dire, c'est sortir de sa zone de confort,
hein?
La résilience, de se lever en douleur le matin et de dire, bon, mais regarde, aujourd'hui, je suis en douleur. J'avais prévu aller monter une mini-montagne.
On
va aller
boire un
chum.
Café sur le bord de la fenêtre.
Finalement, ça va être une petite marche tranquille au bout de la rue, tu sais. C'est ça. Puis le dépassement de soi, là, c'est dans chaque petite action. Plus tu vas te dépasser, plus tu vas gagner en confiance, plus tu vas devenir plus solide aussi.
Parce qu'il y a un risque de perdre ou de ne pas réussir, mais il y a aussi le risque de réussir et d'y arriver et de se donner confiance, d'avoir des succès, tu sais.
Mais il y a aussi le fait aussi de se dire « je vais aller dans une direction où moi, je vais avoir plus de contrôle ». Parce que quand t'aimes quelqu'un, si tu l'aimes vraiment, tu le laisses libre. Et donc, c'est
complètement en dehors de ta volonté. Mm-hmm. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il choisit à
chaque
fois. C'est l'amour détaché. C'est l'amour détaché. Enfin, il y a quelque chose de fusionnel, bien sûr.
Mais c'est pas juste dans l'amour.
Oui, voilà, c'est pas juste dans l'amour.
C'est comme exactement dans ma vie, moi, en ce moment, c'est pour ma vie professionnelle future à laquelle j'aspire et que je veux. Tout ce que je fais en ce moment, c'est des dépassements de soi. Je vais cogner à des portes, je fais des appels. Et oui, probablement qu'il y a des places qu'on va me dire non, mais comment que je vais l'accueillir, ça? Est-ce que je vais faire une journée de crise où je vais me dire, bon, mais regarde, c'était juste pas la bonne place, tout simplement.
Mais tu peux le diriger aussi, tu peux le diriger. Mais tu peux le diriger pour être que ce soit meilleur plus tard. Tu sais, ça fait partie du bagage. Tandis que quand c'est sentimental avec quelqu'un, tu peux pas le diriger, tu peux pas le prendre.
Ouais.
Mais quand c'est vraiment toi qui décides, je présente tel projet, je vais à tel endroit et je décide de ce que j'aimerais faire plus tard, même si on te dit non, tu peux encore le reprendre et oui. Tu peux encore le diriger.
Mais c'est très intéressant ce que vous nommez, parce que dans ce que vous nommez, il y a la notion d'autonomie, de se réapproprier sa vie, de pas attendre l'amour des autres, le regard des autres, l'acceptation des autres pour se définir, pour être heureuse. Madame Dacac, où est-ce qu'on peut savoir s'il y a un truc, on va être preneuse, à savoir où est-ce que je peux savoir si je suis dans la limite saine de ne pas devenir autosuffisante et de ne pas justement me flouer et d'être dans la protection, justement, d'être dans une autonomie saine, tu sais?
Ben, c'est important d'être dans une autonomie saine, comme vous venez de dire, parce que vouloir éviter d'être en relation et être autosuffisante et s'éloigner du monde, ou bien même ne pas vouloir avoir un chien ou un chat pour être abandonné, c'est une réaction exagérée. Et à chaque fois que nous avons une réaction exagérée par rapport à la situation, ça nous fait penser à que peut-être c'est quelque chose qui vient de très loin, qui vient d'un conflit intrapsychique qui n'a jamais été résolu. Donc, parce que ce qu'on a vécu à l'enfance, et là, je reviens à l'enfance, parce que c'est très important. Donc, nous avons, oui, les souvenirs factuels, les souvenirs épisodiques, hein, comme une vidéo qui passe dans notre tête, c'est quelque chose qu'on peut oublier. Hein. Il y a des détails qu'on oublie, mais ce qui est dans la mémoire affective, donc ça veut dire le souvenir affectif qui accompagne ce vécu-là, ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est quelque chose qui va guider parfois notre perception de nous-mêmes, notre perception des autres, et c'est qui va nous amener à agir d'une certaine façon avec les autres et avec nous-mêmes. Donc,
c'est drôle. Et est-ce qu'on doit le prendre différemment d'un parent à l'autre? Je donne un exemple, et puis peut-être que c'est différent pour bien les choses. Et j'aimerais savoir, mon père, lui, disait tout le temps, t'es capable. Il me faisait faire des trucs épouvantables. Il me mettait sur le toit de sa voiture. On partait dans la nature, écoutez, sur le toit de la voiture à 5 ans. Ben, tiens-toi bien près le cadre de bois. Puis bon. Mais ma mère, elle avait peur de tout, etc., etc. Mais par contre, elle me disait, oui, t'es capable quand vient le temps d'aller chercher du travail, des trucs comme ça. Et donc, les deux m'ont donné quelque chose, mais différemment. Est-ce qu'il y a une dominante dans une dominante familiale, parfois, qui fait la différence?
Ben, écoutez, l'essentiel, c'est de respecter les besoins de l'enfant.
Ouais.
Ben, si un enfant, à un certain âge, avait le besoin, je ne sais pas si un enfant pourrait avoir le besoin de vivre des émotions fortes, comme vous êtes en train de le dire, peut-être, oui, mais l'enfant aussi a besoin de sécurité. Si l'enfant se sent en sécurité avec son parent, ça, c'est important. Mais si l'enfant le vit comme son parent est en train de lui faire vivre un risque, ça pourrait être problématique. Donc, ça dépend comment l'enfant vit ces choses-là.
Ben, ma mère, c'était non, puis mon père, c'était oui.
Daniel Ouimet, vous continuez de peindre, transmettre vos compétences et votre passion pour les arts, en fait, à travers l'enseignement des arts plastiques aux États-Unis. Vous souhaitez offrir ces cours-là au Québec.
Oui,
également, votre plus grand vœu, pour cette année, c'est de retourner dans nos écrans et vous y accorder temps et énergie. Oui. D'ailleurs, pour notre plus grand plaisir de vous y retrouver. Merci. Également. En attendant, on peut se procurer votre livre « Mes amis, mes amours, ce que les hommes m'ont appris » qui a été publié aux éditions de l'Homme. Merci d'avoir été présente.
Et je suis à l'écriture du quatrième.
Du quatrième, ouais. Vraiment, on va l'attendre.
Ça n'arrive
également.
Qu'à Daniel. Ça s'appelle comme ça.
Très, 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 très hâte de le lire. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. À Mme Sandra Hull, votre livre « Je suis tellement plus grande que nature » aux éditions Le Dauphin Blanc est toujours disponible. On peut se le procurer pour s'inspirer, pour comprendre, pour s'aider également, s'accepter nous-mêmes. Votre prochaine conférence va avoir lieu le 21 octobre prochain lors de l'événement « Tout part du cœur » à Boucherville. Pour tous les détails, on peut consulter votre site internet le www.plusgrandequenature.com. Merci d'avoir été à l'émission.
Merci.
Madame Shirin Dakak, vous pratiquez toujours à la clinique privée de psychologie René Lainec sur l'avenue Beaumont à Mont-Royal.
Exactement.
Une clinique qui est accessible en passant aux personnes à mobilité réduite pour tout le monde. Donc, tout le monde y est le bienvenu. Pas de rejet là. Et pour ceux qui ont besoin d'aide, on prend rendez-vous avec vous en téléphonant au 514-924-1555 ou encore on peut écrire à cdakak. À commercial, mapsychologue.com. Merci d'avoir accepté l'invitation. .ca. Merci beaucoup à Clotilde Seille pour la réalisation, à Catherine Bourderon à la recherche et Maurice Bolduc à la régie. À la semaine prochaine.